Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneau.
Bonjour Lénaïque Meunier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 7h sur Europe 1.
La sécurité du quartier est évidemment renforcée. Il y a aussi un renfort des dispositifs de protection des lieux symboliques, Hypercacher, Bataclan.
La menace terroriste a-t-elle été sous-estimée? La question est posée à Marlène Schiappa après l'attaque avant-hier à Paris. Le principal suspect voulait bien s'en prendre à Charlie Hebdo.
Des soupçons de maltraitance dans un EHPAD en Aveyron. Des malades d'Alzheimer étaient ridiculisés par des employés.
Emmanuel Macron en Lituanie et Lettonie dès demain fond de crise en Biélorussie, dont le président Loukachenko doit partir, estime le président français.
Et puis, c'est pas tous les jours qu'on voit des vélos sur le circuit d'Imola. Les mondiaux de cyclisme ont lieu aujourd'hui en Italie.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le profil de l'assaillant de vendredi devant les ex-bureaux de Charlie Hebdo commence à se dessiner.
Le principal suspect qui a blessé deux personnes avec un hachoir a assumé son geste. Il pensait bien s'attaquer au siège de Charlie Hebdo et avait fait auparavant des repérages, ce qui pose bien la question de la sécurisation des lieux. Question d'ailleurs soulevée dès vendredi soir par Gérald Darmanin. Les explications d'Hélène Terzian.
J'ai demandé au préfet de police de me dire pourquoi nous avons sous-évalué la menace dans cette rue, la rue Appert.
L'ancien immeuble de Charlie Hebdo ne faisait l'objet d'aucune menace connue. Voilà la réponse de la préfecture de police de Paris au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un début de polémique qui incite peut-être le premier ministre Jean Castex à se rendre hier matin de façon improvisée dans les locaux de la préfecture pour saluer la rapidité, l'efficacité des forces de l'ordre. Hier soir sur Europe 1, c'est la ministre Marlène Schiappa qui ajoute la protection des lieux visés est renforcée comme celle de tous les lieux sensibles.
La sécurité du quartier est évidemment renforcée, mais je voudrais dire qu'il y a aussi une prise en compte et un renfort des dispositifs de protection des lieux symboliques, Hypercacher, Bataclan. Notamment, le ministre de l'Intérieur a renforcé la sécurisation des lieux de culte juif à l'approche de la fête de Kippour, qui s'achève lundi soir.
Quant à la rédaction de Charlie Hebdo, la ministre rappelle qu'elle fait l'objet d'une sécurisation renforcée. Le siège actuel, dont l'adresse est tenue secrète, était déjà surveillé par une garde statique depuis le début du procès. La protection des collaborateurs du journal avait, elle, été renforcée la veille de l'attaque.
Et Gérald Darmanin qui sera à 8h tout à l'heure à la synagogue de Boulogne-Billancourt pour justement célébrer Yom Kippour, la fête religieuse du grand pardon.
Nous allons à présent à Rodez. Scandale dans un EHPAD après des cas présumés de maltraitance.
Des résidents photographiés et filmés par des soignants dans des positions dégradantes. L'enquête avait été ouverte le 4 août, mais depuis quelques heures, elle est entre les mains d'un juge d'instruction, Caroline Baudry.
Une conversation Messenger privée entre salariés sur laquelle circulent des dizaines d'images de résidents. Voilà ce que découvre fin juillet la direction de l'EHPAD La Rossignole, Donné-le-Château, près de Rodez. Dans ce groupe, 11 des 55 employés de l'établissement, les victimes, quelques résidents de plus de 77 ans et souffrant d'Alzheimer, explique Christiane Viguier, vice-présidente du conseil d'administration de l'établissement.
Ils profitaient, je ne sais pas, de leur faiblesse pour prendre des photos, des vidéos et mettre des commentaires sur les photos et les vidéos qui étaient dégradantes. Voilà.
C'était un groupe qui avait commencé juste pour correspondre sur des anniversaires, sur les plannings. On ne sait pas comment ça a dérivé. On était sous le choc parce qu'on n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose puisse se passer.
4 employés ont été licenciés sur le champ. Les 7 autres membres du groupe ont reçu sanctions ou avertissements, poursuit cette cadre de l'établissement. La directrice qui a porté plainte contre ses propres employés a, elle, démissionné. Le dossier est désormais confié à un juge d'instruction. Parmi les délits recensés, violence sur personnes vulnérables, non-assistance à personne en danger et atteinte à la vie privée notamment. 14 plaintes ont été déposées par les familles des victimes sous le choc depuis l'affaire.
Explication de Caroline Baudry. Moins de 4 Covid détectés ces dernières 24 heures, mais le taux de positivité augmente.
14 500 cas, mais le pourcentage de personnes contaminées testées grimpe à 7,2%. On était à 5,4% il y a une semaine, de quoi inquiéter 68% des Français. Et un sondage du JDD nous indique même ce matin que 72% d'entre eux sont prêts à se reconfiner au moins 15 jours si le gouvernement le demande.
7h04, Emmanuel Macron dans les Pays-Baltes. Demain, première visite d'un chef d'État français depuis Jacques Chirac en 2001.
Et le président se rend notamment en Lituanie, pays qui abrite depuis cet été une partie de l'opposition au régime du président biélorusse Loukachenko, dont sa chef, Svetlana Tikhanovskaya. C'est donc une visite importante pour Emmanuel Macron qui s'exprime dans le JDD ce matin. François Clémenceau est le rédacteur en chef du service international.
cette visite à Vilnius demain, là où s'est réfugiée la chef de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya, eh bien, ce voyage prend une autre dimension, une autre importance. Et d'ailleurs, le président de la République dit qu'il éprouve un profond respect pour les manifestants qui réclament chaque dimanche la démocratie. Il utilise même cette expression, Loukachenko doit partir. Et évidemment, toute la question, c'est comment. Il a essayé de faire comprendre tout l'intérêt qu'il y aurait à Moscou de participer à la résolution de cette crise. Mais pour l'instant, ça semble extrêmement difficile. Les enjeux sont complexes. Et donc, c'est compliqué d'apporter à la fois tout le soutien à l'opposition biélorusse et à sa victoire légitime dans l'élection présidentielle du mois d'août. Et en même temps, très compliqué parce que rien ne peut se faire sans le Kremlin, sans Moscou.
Sans surprise, aux États-Unis, la nomination à la Cour suprême d'Amy Coney Barrett par Donald Trump, une juge conservatrice, moins de 40 jours de l'élection présidentielle. Les démocrates continuent de demander au Sénat de ne pas entériner cette désignation avant le scrutin du 3 novembre.
Ah ben justement, parlons-en du Sénat. Le Sénat en France, c'est le renouvellement partiel de la Chambre haute.
La moitié de la Chambre, un scrutin qui pourrait être marqué par une percée verte, mais sans changer l'équilibre des forces au Palais du Luxembourg, majoritairement à droite depuis 6 ans. Les enjeux avec Aurélie Herbemont.
172 sénateurs remettent leur mandat en jeu aujourd'hui. Un scrutin réservé aux grands électeurs issus des élections locales. Les sénatoriales seront donc logiquement un prolongement des municipales. Après des mauvais résultats en juin, le groupe des 23 marcheurs risque de ressortir affaibli. Avec une inconnue, leur président, François Patriat, parviendra-t-il à sauver son siège en Côte d'Or ? Deux ministres sont d'ailleurs candidats. Les ex-LR Sébastien Lecornu dans l'Eure et Jean-Baptiste Lemoine dans l'Yonne. Du côté des écologistes dopés par la vague verte des municipales, l'enjeu est de parvenir à constituer un groupe. Il suffit de 10 sénateurs pour cela. Les socialistes qui ont retrouvé des couleurs en juin espèrent bien conforter leur place de deuxième groupe au Palais du Luxembourg, où la droite devrait rester majoritaire puisqu'elle détient la moitié des villes de plus de 9000 habitants. Les grands équilibres ne devraient pas être bousculés ce soir. Allié au centriste, Gérard Larcher n'a guère de soucis à se faire pour sa réélection à la présidence du Sénat jeudi prochain.
Et puis deuxième tour aussi d'élections législatives partielles. Il y a 6 circonscriptions qui sont appelées aux urnes.
7h07, la suite du journal arrive avec l'emploi d'une aide à domicile ou ménagère bientôt simplifiée. Des tests en tout cas sont à l'étude dans le nord de la France.
Europe 1. Votre matinale info,
Pierre de Villeneuve.
La suite du journal de Lénaïque Meunier. Allez, Lénaïque, on va faire du pratico-pratique. Hein. Comment simplifier la déclaration des particuliers qui emploient une aide à domicile ou une aide ménagère?
C'est toujours un casse-tête administratif, mais cela pourrait être facilité par l'utilisation du CESU, c'est le chèque emploi service universel. Écoutez ce reportage à Lille de Lionel Gougelot.
Retraité dans la région lilloise, Marc emploie 3 heures par semaine une aide ménagère et quand il déclare chaque mois le nombre d'heures effectuées, le site du CESU lui calcule automatiquement le crédit d'impôt dont il bénéficie. Il ne paye donc que le montant net du reste à charge, salaire plus cotisation divisé par 2. Plus besoin d'attendre l'année prochaine le remboursement de ce crédit d'impôt.
On paye le salaire de la personne avec le nouveau système. Immédiatement, on aura le crédit d'impôt. Donc ça sera beaucoup plus visible ce qu'on paye réellement.
Ce crédit d'impôt versé en temps réel, système simplifié qui devrait séduire plus d'employeurs et faire reculer le travail au noir, selon Marie-Béatrice Levaux, présidente d'une fédération de particuliers employeurs.
Tous les mois, vous allez avancer moins de trésorerie pour avoir un salarié déclaré à votre domicile. Et donc je pense que vraiment ça va avoir un boom sur l'emploi déclaré. De toute façon, les besoins sont là. Et puis, on va aussi certainement créer de l'emploi net. Et ça, on en a bien besoin en ce moment.
Un système simplifié qui, quand il sera généralisé en 2022, devrait générer, selon Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, la création de 200 000 emplois d'aide à domicile. Et Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
La généralisation.
Mais laissez-le terminer, enfin.
C'est vrai, je l'ai coupé la chic, le pauvre Lionel. Généralisation de ce système en 2022.
Les mondiaux de cyclisme à présent, ils se disputent aujourd'hui en Italie sur le circuit d'Imola.
Voilà qui va changer des Formule 1. Le parcours italien est taillé pour les punchers, dont Julien Alaphilippe, mais qui reste outsider après ses performances sur le Tour de France, Axel May.
Avec la forme de l'an dernier, Julien Alaphilippe, sur ce circuit italien difficile, aurait eu la pancarte de favori. Mais le Tour de France a montré que malgré ses 3 jours en jaune, le Alaf de 2020 n'est pas le Julien de 2019.
Je suis quand même très content d'être ici pour ce championnat du monde, avec une grande motivation. Je pense personnellement avoir bien géré ma semaine de récupération après le Tour de France, mais on est peut-être... pas les grands favoris, on fait partie des outsiders, mais on a quand même plus l'ambition de donner le maximum pour un seul objectif, c'est de gagner, même si un podium, ce sera déjà quand même super cool. Voilà.
Outsider ne veut pas dire non plus que les Français vont courir cachés dans le peloton, assure le sélectionneur Thomas Voeckler.
L'équipe de France, on ne peut pas se faire oublier. Tant mieux, ça veut dire. On n'est pas une petite nation. Quand on veut se faire oublier, on se met en deuxième rideau. Et vu le circuit qu'il y a, si on se met en deuxième rideau, on est oublié, mais pour de bon jusqu'à l'arrivée.
Mais face au duo slovène Roglic Pogacar, au belge Van Aert, au danois Fuglsang, pour ne citer que, les adversaires ne manquent pas dans cette quête du maillot arc-en-ciel qui se refuse à la France depuis la surprise Laurent Brochard, il y a 23 ans déjà.
Axel May du service des sports d'Europe 1. On va commencer par des conseils de lecture. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler avec Camille Pascal à 8h15 à la Chambre des Dupes. C'est son dernier récit historique. Mais il y a aussi, dans la rentrée littéraire, un livre qui dépasse, comme on dit, c'est Chavirer de Lola Lafont.
Oui, sur la liste de Goncourt, elle avait publié La petite communiste qui ne souriait jamais, biographie de la gymnaste Nadia Comaneci. Mais rien à voir cette fois-ci, Nicolas Carreau.
1984, Cléo a 13 ans et vit dans une banlieue parisienne, ni riche ni pauvre. Elle a une passion, la danse, le modern jazz. Un jour, une dame très chic, Cathy, se présente au cours de danse. Elle est chargée de repérer des talents pour la fondation Galatée. Au début, le rêve se réalise, mais bientôt, Cléo se retrouve piégée, victime d'un prédateur. Ensuite, Cathy demande à Cléo de devenir elle-même rabatteuse pour la fondation. Et de victime, Cléo devient coupable. C'est cette ambiguïté-là que Lola Lafont a voulu décrire.
On est tous dans une position de victime coupable. Vous avez beau souffrir d'un système, souffrir d'un couple, de conditions de travail, vous pouvez être victime et en même temps vous y avez collaboré. Et c'est ça qui vous tient.
40 ans passent, deux journalistes enquêtent sur cette fondation et un appel à témoins est lancé. C'est la bonne nouvelle du livre. On avance, on progresse.
Moi j'ai vraiment l'impression d'assister à l'histoire en marche, c'est-à-dire que je me dis, incroyable, de ton vivant, tu auras vu quelque chose que je n'imaginais pas. Je trouve ça très émouvant pour les petites filles qui vont grandir avec cette parole possible.
Lola Lafont nous emmène dans son roman fort et délicat. C'est aussi un grand livre sur la danse et l'écriture elle-même ressemble à un ballet.
Et Nicolas Carreau, que vous retrouvez évidemment dans La Voix et Livre tout à l'heure à 14h.
Nicolas Carreau, que vous retrouvez dans La Voix et Livre, et Lénaïque Meunier, que vous retrouvez pour le journal de 8h. Merci Lénaïque.